Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Énième mission de la CEDEAO, énième échec à Bamako le week-end dernier, le médiateur Goodluck Jonathan est une nouvelle fois rentré sans aucun compromis sur la durée de la transition. Les autorités maliennes proposent un délai incompressible de 24 mois alors que la CEDEAO exige 12 à 16 mois de durée supplémentaire. Comment parvenir à un compromis? Quelles pourraient être les chances pour parvenir à un compromis et quelles pourraient être les conséquences du statu quo sur les deux parties? Nos invités sont Ibrahima Tamega, porte-parole du cadre d'échange des partis et regroupement du parti pour une transition réussie, Sidi Touré du parti pour la Renaissance nationale Parina, Alaï Ali Diko du Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali Fusi Mali, Ibrahima Momodou Kone, universitaire et analyste politique. Sékou Gadjigo va modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Je le disais à l'entame de mon propos, le médiateur Goodluck Jonathan est rentré le week-end dernier sans pouvoir trouver un compromis avec les autorités de la transition sur la durée de cette transition. La CEDEAO a proposé 12 à 16 mois alors que les autorités maliennes indiquent qu'ils ne dépasseront pas 24 mois de transition. Je vous invite à écouter ce papier de Assetou Kanté.
Après une première proposition de 5 ans, les autorités de la transition ont demandé 4 ans, ensuite 3 et finalement 2 ans en fin de semaine dernière. Dans un communiqué, le gouvernement malien indique que cette nouvelle proposition est un effort ultime du colonel Assimi Goïta visant à parvenir à un compromis réaliste et salutaire pour les deux parties. Mais cette proposition n'a pas été acceptée par la CEDEAO. Le médiateur Goodluck Jonathan demande une durée de 12 à 16 mois. Le gouvernement du Mali juge aussi cette proposition électoraliste. Il estime qu'elle ne prend pas en compte les aspirations légitimes des réformes politiques et institutionnelles exprimées par le peuple malien. Mais les deux parties ont réitéré leur volonté de poursuivre le dialogue pour trouver un compromis. D'ici là, les sanctions économiques imposées au Mali par la CEDEAO et l'UEMOA depuis 2 mois restent toujours d'actualité. De nombreux produits de première nécessité ont connu une hausse de leur prix dans le pays, même s'ils ne seraient pas concernés par les sanctions.
Alors, Sidi Touré, on vient de l'entendre, il n'y a pas eu d'accord entre la CEDEAO et le Mali suite à cette énième visite du médiateur Goodluck Jonathan. Que vous inspire ce nouveau désaccord?
Merci à tous et à toutes, M. Gadjigo. Merci à mes co-débatteurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi au nom du Parena de présenter toutes nos condoléances à la famille du Premier ministre M. Soumaïlou Boubé Maïga, un acteur majeur de l'avènement de la démocratie dans notre pays. L'ancien Premier ministre qui a joué un rôle majeur pour que la démocratie soit au Mali. Et au nom de sa famille biologique et de sa famille politique, nous présentons toutes nos condoléances, que son âme repose en paix et que la terre lui soit légère.
Amen.
Et pour revenir à votre question, nous pensons que pour la résolution de cette crise-là, le dialogue est nécessaire. Le compromis est nécessaire, surtout un compromis dynamique pour nous aider à juguler rapidement cette crise-là, parce que les Maliens aujourd'hui souffrent quand même des conséquences des sanctions. Pour ce faire, je pense que de part et d'autre, et la CEDEAO et le gouvernement de la République du Mali doivent faire des efforts pour qu'on arrive à un chronogramme, un délai raisonnable, consensuel, qui peut nous permettre justement d'assurer le retour à l'ordre constitutionnel.
Alors, y a-t-il des chances pour ça? Est-ce qu'il y a des chances de parvenir à un compromis?
Je pense que nous sommes condamnés à trouver un compromis parce que la crise quand même ne peut pas demeurer éternellement. Il faut d'une façon ou d'une autre trouver une solution de sortie de crise. Raison pour laquelle dans mon intervention, j'ai dit et la CEDEAO et les autorités maliennes, jusqu'à preuve de contraire, chacun doit faire un effort pour qu'on puisse trouver justement un délai raisonnable, consensuel, qui va nous permettre justement de revenir à l'ordre constitutionnel. Pour ce faire, moi je pense que cette recherche justement de compromis, de délai raisonnable, doit être adossé à un dialogue inter-malien.
D'accord. Nous allons arriver aux solutions que vous allez proposer pour parvenir à ce compromis-là. Mais avant, je voudrais demander à Ibrahima Tamega, porte-parole du cadre d'échange des partis et regroupement de partis politiques. Alors, votre regroupement fait figure d'opposition à la transition, en quelque sorte. Et comment vous analysez ce nouveau désaccord entre la CEDEAO et les autorités maliennes?
Merci beaucoup pour la question. Permettez-moi tout d'abord de paraphraser mon aîné. Les Maliens sont abasourdis, il faut le dire, suite à l'annonce du décès de l'ancien Premier ministre, de l'ancien ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, Soumeilou Boubey Maïga, qui nous a quittés dans des conditions difficiles. Au nom du cadre, à mon nom aussi, en tant que citoyen, nous présentons nos sincères condoléances à la famille biologique et politique et à l'ensemble des proches collaborateurs de Soumeilou Boubey Maïga. Que son âme repose en paix, que Dieu l'accueille dans son paradis de façon éternelle. Pour répondre à votre question, monsieur, avant cette rencontre de ce week-end écoulé, nombreux sont des Maliens, des millions de Maliens, d'amis du Mali. Nos amis de la communauté internationale avaient encore une fois fondé un espoir suite à cette rencontre. Nous avions espéré que ça allait être peut-être la dernière rencontre entre nos autorités et la CEDEAO, en tout cas autour de cette question de transition, de durée de la transition, de délai de la transition et de la levée des sanctions. Malheureusement, encore une fois, la souris a accouché d'une montagne. Malheureusement, la levée des sanctions est reportée à une date ultérieure. Malheureusement, à cause de ce désaccord qui se maintient, les Maliens vont continuer à payer cher les conséquences de cette sanction, à payer cher le riz, à payer cher l'huile, à payer cher le sac de ciment, à avoir du mal à joindre les deux bouts. Malheureusement, les opérateurs économiques de notre pays souffrent avec des centaines de camions bloqués dans les pays frontaliers. Nous avions pensé que les deux parties allaient prendre en compte justement toutes ces souffrances aujourd'hui infligées au peuple malien.
Mais selon vous, qu'est-ce qui explique ce manque de compromis? Où se trouve le blocage?
Mais justement, où se trouve le blocage? Nous avons dit très clairement, de façon objective, qu'il n'y avait pas lieu de proposer autant d'années à la CEDEAO parce qu'une transition n'a pas vocation justement à procéder à des réformes institutionnelles. Cette transition devrait plutôt s'inscrire dans une dynamique de renforcer la sécurité et de tout mettre en œuvre, comme c'était d'ailleurs écrit dans la première charte, de tout mettre en œuvre pour permettre le retour dans la légalité constitutionnelle à travers l'organisation d'élections libres et transparentes. D'accord. Malheureusement, les tâches et les missions se sont multipliées. Malheureusement, des politiques ont induit les militaires inexpérimentés dans la politique, dans leur ère. Et c'est ce qui nous a conduit, bien entendu, dans cette sanction D'accord. que nous supportons
D'accord.
aujourd'hui.
D'accord.
Difficilement.
Nous allons revenir vers vous tout de suite, le temps de poser cette question à Alaï Diko. Vous êtes du Fusil. Est-ce que vous étiez aussi optimiste que Tamega à l'annonce de l'arrivée de la mission de la CEDEAO? Est-ce que vous avez été surpris par ce désaccord une nouvelle fois entre les autorités maliennes et la CEDEAO?
Merci beaucoup, mon frère Gadjigo. Avant de commencer, permettez-moi de joindre ma voix à celle de mes prédécesseurs pour présenter nos sincères condoléances au nom de Fizi Mali à la famille de l'ancien Premier ministre Soumeilou Boubey Maïga. Que la terre lui soit légère, que Allah l'accueille dans le paradis. Revenant à la question, moi je dirais qu'au nom de Fizi Mali, Forum uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, nous demeurons toujours optimistes vu que Fizi Mali, depuis très longtemps, avait pour vocation de toujours jouer le rôle de médiateur. Nous avions, en son temps, avant les assises nationales de la refondation, sollicité l'accord et l'avis de la population malienne à travers un référendum populaire que nous avons eu à organiser, où on a recueilli l'avis des Maliens par rapport à la prolongation de la transition dans notre pays. Et lors de cette pétition, nous avons pu recueillir plus de 5 millions de signatures des Maliens qui ont demandé minimum 2 ans pour la prolongation. Et nous avons écrit à la CEDEAO, nous avons écrit à la communauté internationale et à l'Union européenne, à l'Union africaine pour leur demander d'écouter le peuple malien. Et nous avons été quand même surpris de voir que la CEDEAO n'a pas pu écouter nos autorités, puisqu'ils ont fait beaucoup d'efforts vu les multiples propositions de sortie des crises qu'ils ont proposées. Nous pensions que la CEDEAO aurait dû être au moins indulgent vis-à-vis de notre population et d'écouter le peuple malien pour accepter ces délais de 24 mois qui correspondent aux 2 ans que Fizi Mali avait proposé lors des assises nationales de la refondation. Nous demeurons optimistes et nous souhaiterions aussi vraiment une issue favorable et en priant surtout la CEDEAO d'être indulgent vis-à-vis de nos autorités et de les écouter.
Vous pensez que la CEDEAO va lâcher du lest et puis essayer de rejoindre les autorités qui demandent 24 mois ?
Vous savez, quand on parle de compromis, il s'agit de faire des concessions. Et nous allons demander à la CEDEAO de voir et de bien comprendre la situation malienne. Aujourd'hui, ce n'est pas les élections qui est une priorité chez nous. Aujourd'hui, nous avons d'autres priorités, nous avons d'autres ambitions et nous avons des actions prioritaires qu'il faut en tenir compte. Donc moi, je pense que la proposition du président de la République, du chef de l'État, le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, est très logique par rapport aux réformes que nous souhaiterons avoir avant les élections.
Ces réformes ne peuvent pas se tenir en 16 mois, en 12 mois, selon vous. Les actions à faire, les actions que vous comptez mener, est-ce qu'on ne peut pas les tenir dans le délai proposé par la CEDEAO, de votre point de vue ?
Nous pensons que le gouvernement avait besoin suffisamment de temps pour pouvoir vraiment et véritablement faire ces réformes, étant donné que c'est des réformes à multiformes, des réformes institutionnelles au niveau politique. Et nous avons besoin suffisamment de temps et nous pensons que c'est raisonnable de proposer les 24 mois pour pouvoir aller à l'essentiel.
D'accord. Brahima Kone, vous êtes analyste politique. Quand vous regardez ce nouveau désaccord, c'est la troisième visite de Goodluck Jonathan depuis le début de l'année. Et malgré tout, il n'y a pas eu de consensus sur le chronogramme. Vous, comment vous l'analysez ?
D'accord. Et permettez-moi de rendre hommage à Soumerou, à l'ancien Premier ministre Soumerou Boué Maïga, avec qui j'entretenais de très bonnes relations sociales et amicales, qui le repose en paix auprès de ses ancêtres. Maintenant, la question de fond aujourd'hui qui pose problème, la question, elle est interne. C'est vrai que la question des élections relève de la souveraineté, mais il faut nuancer cette question. Vous savez, quand un pays s'engage à signer des accords internationaux, à signer des conventions internationales, à intégrer dans un espace d'intégration régionale, abandonne une partie de sa souveraineté. Et ce pays est soumis, n'est-ce pas, au règlement communautaire, au droit communautaire de cet espace. Maintenant, Et ce qui fait le blocage aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'à l'interne, il n'y a pas de dialogue politique, il n'y a pas de dialogue social pour la sortie de crise. Il fallait appeler l'ensemble des acteurs importants du processus électoral, le réunir, discuter, sortir un calendrier électoral ensemble qui soit consensuel entre les Maliens d'abord et aussi faire d'autres assises pour convoquer l'ensemble des forces vive de la nation pour qu'on puisse décider réellement du délai de la transition.
D'autres assises que celles qu'on a tenues récemment, les assises nationales.
Oui, quel que soit le format, que ce soit une journée ou 2 jours, il fallait réunir l'ensemble des forces vives de la nation dans une démarche inclusive sous le Tougouna et que les gens décident ensemble dans quelle doit être la durée de la transition. Est-ce que c'est une année? Est-ce que c'est 2 ans? Et décider aussi, n'est-ce pas, du chronogramme électoral. On ne change pas, comme Tchablé Dramé l'a toujours dit, on ne change pas un consensus sans le faire par un autre consensus. Le délai de la transition a été décidé à l'issue d'assises par les forces vives de la nation. Et si on doit changer, on n'a pas réussi à organiser les élections dans le délai imparti pour des raisons que nous connaissons tous. Et si on doit décider encore d'une prolongation de la transition, cela ne doit pas être décidé de façon unilatérale par le gouvernement de transition ou par le président de la République. Oui, mais ça doit être décidé par l'ensemble des Maliens. Et il faut convoquer des concertations pour que l'ensemble des Maliens puissent décider du délai de la transition. Mais cette façon de décider, elle est unilatérale.
Mais le gouvernement dit que ce délai a été choisi conformément aux recommandations des assises, qui proposaient entre 6 mois et 5 ans. Et le gouvernement, face au refus de la CEDEAO, le gouvernement est revenu à 39 mois, 36 mois après, 29 mois et maintenant 24 mois. Malgré tout, vous pensez que le gouvernement évolue en solitaire?
Non, le gouvernement évolue en solo. Et le fait qu'on est en train d'exclure aujourd'hui certains acteurs importants du débat public, que certains activistes du régime sont en train de traiter d'apatrides, c'est une grosse erreur. Personne n'a le monopole, n'est-ce pas, du nationalisme ou du patriotisme. Ce qui dirige le pays aujourd'hui, c'est lié à certaines situations de conjoncture. Mais ils ne sont pas plus patriotes que ceux qui ne sont pas dans les bateaux du gouvernement aujourd'hui. Ils ne sont pas plus patriotes que nous, de la majorité silencieuse. C'est extrêmement important. Il faut qu'on prenne ça en compte et qu'on arrête d'incriminer certains et qu'on arrête d'exclure certains, n'est-ce pas, du débat politique. Les ANR dont vous parlez, les ANR ont décidé que la transition, que ce soit de 6 mois ou de 5 ans. Ça, c'était des recommandations qui sont sorties dans les années. Mais est-ce que ça doit être l'alibi pour le gouvernement de la transition de prolonger les délais de la transition de 3 ans ou de 2 ans? Pour moi, concrètement, je ne vais pas rentrer dans la doctrine universitaire. Mais le débat qu'on est en train de faire aujourd'hui sur la refondation, je ne suis pas contre, mais pour moi, le modèle ne sied pas.
D'accord. D'accord.
Non, attendez-moi que je développe.
On reviendra parce
que,
si il s'agit de la refondation. Voilà.
Non, parce qu'il ne faut pas que la refondation... Il ne faut pas que certains acteurs aient l'impression que l'alibi pour l'organisation des ANR, c'était pour la prolongation de la transition. Depuis que les ANR ont lieu, est-ce que y a eu un consensus par rapport même à l'augmentation, n'est-ce pas, du nombre des membres du Conseil national de la transition?
D'accord.
Est-ce qu'il y a eu un espace qui a permis...
On y reviendra pour une première question. Je voulais juste savoir votre analyse par rapport à ce nouveau désaccord. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est la CEDEAO qui a une position figée ou bien est-ce que c'est le gouvernement qui fait pas montre de je sais pas comment dire, de volonté politique? Où se trouve le blocage? C'est ce que je voulais savoir.
Le blocage, vous savez, dans la diplomatie, il faut savoir faire des concessions. Et c'est quand on fait des concessions qu'on arrive à des compromis ou à des compromissions qui sont favorables par rapport à la position de chaque parti. Et la transition, la CEDEAO a accompagné le Mali pour la sortie de crise. Là où le problème est survenu, c'est après le double coup d'État, où on a voulu prolonger la transition pour sortir du carnaval. Tout a été décidé. Mais maintenant, la transition a proposé un délai de 12 ou 16 mois. Pour moi, ce délai est assez raisonnable. Si on a la volonté politique aujourd'hui, on peut faire les élections dans un délai de 16 mois. Et la CEDEAO ne doit pas continuer à cautionner les ruptures démocratiques.
D'accord.
Il faut qu'on exige le retour à l'ordre constitutionnel. Et la position de la CEDEAO, moi je suis malien, j'en subis aujourd'hui les conséquences.
C'est un autre débat, mais je voulais juste poser cette question à Sidi Touré. Ça, c'est la question d'un internaute qui pense qu'aujourd'hui la CEDEAO est en train de se substituer ou tente de se substituer au peuple malien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela?
Bon, moi, je pense que la CEDEAO est dans son rôle. Quand même, quand vous prenez le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, il est clairement dit que dans aucun membre de la CEDEAO, il n'est permis de prendre le pouvoir sans passer par les élections. Et aujourd'hui, au Mali, on constate qu'il y a eu une rupture démocratique.
Comme dans d'autres pays voisins.
Dans d'autres pays voisins, et à un moment donné... dans ces pays-là, le Mali est même intervenu pour rétablir l'ordre constitutionnel. Mmh. Quand je prends par exemple le cas du Niger, l'ancien président de la République, M. Alpha Omar Konaré, à l'époque, a clairement dit qu'il ne va pas s'asseoir sur la même table que, par exemple, des opposants, des putschistes nigériens.
Oui, mais plus récent au Burkina.
Maintenant, il faut simplement comprendre que le Mali a souscrit au principe de la CEDEAO. Mmh. Et aujourd'hui, si on n'arrive pas à respecter ces principes-là, honnêtement, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Donc, il faut simplement se dire que ce n'est pas le peuple malien dans son entièreté qui est à la base de la situation actuelle, et nul n'a le monopole du peuple. Donc, moi, je pense que si on veut réellement parler du peuple, il faut qu'on aille aux élections. C'est le peuple, à partir de cet instant-là, qui peut se déterminer. Mais maintenant, réunir à peu près quelques personnes au niveau du CICB et dire que c'est la volonté du peuple, bon, là, il y a un problème.
Parce que quand vous prenez
même les assises, à un moment donné, les assises ont été boycottées par une frange importante quand même de la classe politique et de la société civile, notamment pas mal de partis politiques et les groupes armés signataires de l'accord, et pas mal de personnalités ne se sont pas reconnues justement dans ces ANR-là. Et finalement, les ANR qui devraient être la thérapeutique à la crise, au contraire, les ANR n'ont fait qu'aggraver la crise. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se dégage? On a comme l'impression que les ANR ont été simplement organisés pour prolonger la durée de la transition et les autres résolutions ont été superbement ignorées par les Maliens. Parce que de plus en plus, on n'en parle même pas. Donc moi, je pense qu'on doit rapidement travailler pour sécuriser le territoire et organiser les élections législatives et présidentielles. Pour ce faire, nous avons besoin d'un fichier électoral fiable, rigoureux, qui va être justement travaillé par tout le monde. Et à partir de cet instant-là, on va aussi publier les résultats des élections bureau de vote par bureau de vote. Donc pour le parrainat, pour la réussite de la transition, si on veut vraiment que la CEDEAO nous aide, il faut un dialogue inter-malien. Les Maliens eux-mêmes doivent s'asseoir et trouver un consensus autour du délai de la transition, toute chose qui peut nous permettre justement de rencontrer la CEDEAO et de lever les sanctions. Donc je pense que ce dialogue inter-malien-là est fondamental pour la sortie des crises. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas régler les questions politiques sans la classe politique. Et à un moment donné, le gouvernement avait commencé ce travail-là, mais ce travail a été arrêté à mi-chemin et je pense qu'il faut revenir à la table de discussion et avec la classe politique et la société civile pour qu'on trouve un consensus inter-malien qui va nous permettre de négocier avec la CEDEAO pour qu'on lève les sanctions.
Le gouvernement parle des réformes politiques et institutionnelles qu'il faut impérativement mener avant de parler d'élections. Selon vous, Tamega, du cadre des partis politiques, est-ce que vous pensez que ces réformes-là peuvent être menées dans le délai proposé par la CEDEAO?
Monsieur, vous savez, une transition, je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas vocation à procéder à toutes ces réformes-là. Il faut attendre qu'on retourne dans la légalité constitutionnelle. Il faut attendre l'élection d'un président de la République démocratiquement élu, d'un gouvernement mis en place par ce futur président de la République. Et ce gouvernement, avec ses futurs chefs de l'État, avec la société civile, l'ensemble de la classe politique, nous allons travailler ensemble pour procéder à des réformes nécessaires et urgentes.
Pour le moment, piège. Quelles sont les réformes qui s'imposent? Ou bien c'est on n'a pas besoin de réformes?
C'est un piège. Aujourd'hui, il a parlé des questions de fichiers électoraux, de lois électorales. Tout ce qui peut être mis en œuvre pour nous permettre de rentrer dans la légalité constitutionnelle est sûrement urgent. Maintenant, les autres réformes peuvent attendre la mise en place du futur gouvernement sous le leadership d'un président de la République démocratiquement élu. Ça, ce n'est pas compliqué. Les gens ont... Moi, j'ai l'impression, nous avons l'impression que certains veulent confondre la gestion, la durée d'une transition avec un pouvoir légal, un pouvoir légitime. Une transition, de fait, c'est aujourd'hui, c'est que nous vivons une situation suite à un coup d'État. Un coup d'État qui est condamné par la Constitution. Il ne faut pas donner l'impression que ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont été choisis par le peuple malien. Il l'a dit, à leur niveau, à eux seuls, ils décident de la durée de la transition, alors qu'aux assises nationales même, comme certains veulent prendre la référence sur les assises même ont été incapables de proposer un délai précis. On a parlé de 6 à 5 mois. Est-ce que de façon responsable, on devrait même présenter ces délais-là à la CEDEAO? La première fois, on leur a parlé de 6 à 5 mois. 5 ans, pardon, j'allais dire.
6 mois à 5 ans.
6 mois à 5 ans. Ce n'est pas sérieux. Nous vivons une situation grave, dramatique. Et il l'a dit, le Mali, c'est aussi la CEDEAO. La CEDEAO, c'est aussi le Mali. Il ne faut pas oublier, aujourd'hui, c'est peut-être le président ghanéen qui est à la tête de la CEDEAO. Demain, c'est peut-être le futur président de la République du Mali qui sera à la tête de la CEDEAO. Nous faisons partie de la CEDEAO. Nous avons pris des engagements. Quand il y a de telles situations, bien entendu que la CEDEAO, comme il a dit mon aîné, est dans son rôle d'intervenir, de venir faire des pourparlers, d'influer pour que nous puissions trouver le calme, d'influer pour que les Maliens se réconcilient. Il ne faut pas voir la CEDEAO comme nos ennemis.
D'accord.
C'est très important.
D'accord. Alaï Diko, je reviens vers vous tout de suite. Alaï Diko, aujourd'hui, ça fait, on est pratiquement au terme de la première, en tout cas partie de la transition, les 18 mois qui avaient été accordés à la transition. Et jusque-là, on ne parvient pas à trouver un autre chronogramme. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de perdre du temps ?
Non, pas du tout. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de réagir un peu par rapport à ce que mes frères ont dit. Moi, je pense que je ne sais pas là où ils étaient quand on organisait les Assises nationales de refondation. Moi, je pense que ces Assises nationales ont été une réussite totale. Et bien avant l'organisation de ces assises nationales, nous avons assisté à plusieurs concertations et nous pensons que le gouvernement de la transition a pris suffisamment de temps pour concerter toute la classe politique, la société civile, pour que tous les Maliens puissent prendre part à ces assises nationales. Raison pour laquelle il y a eu plusieurs reports de ces assises nationales. Et ces assises nationales ont commencé au niveau local, au niveau cercle, au niveau région, jusqu'au niveau national où nous avons assisté à Bamako et la présence de la société civile, de l'ensemble, de la majorité des partis politiques, notamment des grands partis politiques qui ont pris part à ces assises nationales. Moi, je pense qu'il est un peu honteux de dire encore qu'il faut faire organiser d'autres assises. Et ces assises nationales ont pris en compte la préoccupation des Maliens. Comme j'ai eu à vous le dire, nous avons été à recueillir l'avis des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Il ne s'agit pas de Bamako, il ne s'agit pas des partis politiques qui sont à Bamako, mais il s'agit des Maliens qui sont les Maliens lambda qui sont dans les villages, qui sont dans les hameaux. C'est eux qui se sont prononcés et c'est eux l'électorat. Donc ils ont demandé à ce qu'il y ait une prolongation et ils ont fait leur proposition qu'ils ont soumise au niveau des assises nationales et qui a été prise en compte. Il s'agit d'une prolongation de 6 mois à 5 ans. Et vous savez, les assises nationales, il ne s'agissait pas seulement de déterminer la durée de la transition. Il y avait d'autres préoccupations, notamment la refondation. Il y a plusieurs préoccupations qui ont été prises en compte. Nous avons penser qu'il est important que les Maliens comprennent que le gouvernement est en train de travailler pour nous amener vers une solution. Et parlant de la CEDEAO, nous pensons que la CEDEAO aujourd'hui, elle devait être indigente. Pourquoi ? Parce que on vous avait parlé de concessions. Moi, je pense que le gouvernement et l'ensemble des acteurs de la transition ont fait beaucoup de concessions. Ils ont fourni beaucoup d'efforts. Ils ont été à l'écoute de la CEDEAO, ils ont tendu la main. Et moi, je ne peux pas comprendre que la CEDEAO ait accepté 3 ans pour le Burkina et refusé 24 mois pour le Mali. Moi, je suis vraiment surpris. Et je pense que je parle sous le contrôle des juristes. Je n'ai vu nulle part dans les textes de la CEDEAO que c'est à la CEDEAO de décider un chronogramme pour un pays.
Oui, mais il faut préciser que le Mali, on a déjà fait 18 mois. Donc le Burkina a 3 ans, mais le Mali a déjà fait 18 mois, plus 24 mois encore, donc ce sera pratiquement plus que 3 ans. Alors, docteur plutôt Brahima Mamadou Kone, vous êtes analyste politique. Il y a un internaute qui pose cette question, Ibrahima Kébé. Lui, il veut savoir pourquoi la France prend le devant dans cette crise entre le Mali et la Syrie. Est-ce que vous avez ce sentiment-là?
D'abord, permettez-moi de rebondir.
Rapidement, parce qu'on n'a pas...
S'il vous plaît, oui. Le débat est très sérieux pour ça.
Je n'ai pas
de position, non.
Oui.
Je suis venu pour discuter. Mm-hmm. Permettez-moi de... Quand vous dites que c'est honteux, je crois que c'est trop dur. Mm-hmm. Moi, j'ai dit d'organiser des concertations pour permettre aux gens de se prononcer sur le délai de la transition. Ce n'est pas un crime. Et les assises, les réformes politiques dont vous parlez, si on pose la question aux Maliens aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait pour le Mali? Je peux parler. J'ai participé à l'élaboration des politiques nationales du Mali, 2014 à 2016. la politique nationale, la politique foncière agricole. J'ai participé en tant que consultant à l'élaboration de la politique agricole du développement. Donc quand on parle de politique publique, je sais de quoi je parle.
D'accord.
Aujourd'hui, on est en train de dire, les ANR ont fait telle recommandation. Est-ce qu'il y a un travail de réflexion? Est-ce qu'on a des modèles stratégiques? Et quand vous prenez le Mali, on a une économie extravertie. Quel est le débat aujourd'hui qui est mené par rapport à l'élaboration de modèles économiques pour nous sortir de cette économie extravertie pour aller vers une économie intravertie? Il faut qu'on diagnostique les vrais problèmes du pays, les vrais problèmes de développement socio-économique. Mais par rapport à l'autre question, on ne peut pas empêcher les Maliens de s'exprimer par rapport au délai de la transition. C'est un crime. La démocratie a été chèrement
acquise. Parce que les Maliens sont empêchés de s'exprimer?
Oui, non. On pense, dès que certains s'expriment, on pense qu'ils sont des ennemis du pays. Il faut qu'on sorte de cette posture pour poser les débats. Et si vous voulez poser les débats, il ne faut pas exclure certains du débat. Donc, quand on parle de réforme, c'est vraiment mon domaine. Je sais de quoi on parle.
D'accord.
Deuxièmement, vous pensez qu'un pays comme le Mali, assujetti par une crise multidimensionnelle, par une crise économique, par une crise sociale, humanitaire, on peut refonder ce pays, on peut changer les institutions institutionnelles dans quelques mois de transition.
D'accord.
Il fallait poser, n'est-ce pas, les bases de la refondation du Mali. Et je vous donne un exemple simple. Si on arrive à changer aujourd'hui la constitution du Mali, on a déjà posé les bases de la refondation du Mali. Le reste du travail va se poursuivre. Et ce travail revient de droit à un président légitimement élu par les Maliens qui va créer les cadres de concertation et les conditions de participation de l'ensemble des acteurs politiques et sociaux.
D'accord.
Pour
donc
la mise en œuvre de
donc vous estimez que la réforme de la Constitution est impérative pendant cette transition?
La réforme, pour moi aujourd'hui, la réforme de la Constitution, elle est impérative. Nous avons une Constitution qui est dépassée.
Cela peut prendre combien de temps?
Il faut, pour moi, si on avait la volonté politique, depuis que le Premier ministre Choguel est venu, il est issu de la classe politique, il fallait que le cadre de concertation des partis politiques soit opérationnel. On sait que même tout bon juriste normativiste qui se respecte vous dira qu'on ne peut pas mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de l'accord de la paix, pour la paix et la réconciliation sans reviser la Constitution parce qu'il y aura des blocages.
D'accord.
Et si on revise la Constitution aujourd'hui,
d'accord,
on va lever beaucoup de blocages par rapport à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et pour la réconciliation.
D'accord.
Si on avait fait ce travail, on avait déjà balisé le terrain pour le présent à venir. Maintenant, pour d'autres questions de fond, les réformes dont Tamega parlait, les réformes politiques,
d'accord,
il faut changer juste la loi électorale. Ça on n'a pas besoin de constitution pour le faire.
D'accord.
Il faut changer ça. Et par rapport à l'organe unique de gestion des élections, le débat n'a pas été inclusif.
D'accord.
C'est pourquoi les partis, les cadres de concertation
ne sont
pas d'accord.
Je reviens tout de suite. Sidi Touré, on sait qu'il n'y a pas d'accord. Voilà, on est dans le statu quo. Quelles peuvent être les conséquences de cette situation? Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres sanctions de la CEDEAO ou bien voilà, la CEDEAO va essayer d'alléger ces sanctions-là ou bien de les lever complètement?
Un mot avant de répondre à votre question à monsieur Diko. Ce n'est pas honteux de la part justement des partis politiques de travailler pour que la transition puisse être consensuelle, inclusive, apaisée. Et pour ce faire, nous sommes condamnés quand même à dialoguer parce que le fondement de la démocratie, c'est le dialogue, c'est le consensus, c'est le compromis. Mais de plus en plus, au Mali, je constate que le vocabulaire qui est utilisé ne va pas dans le sens justement du dialogue. On n'y a pas de dialogue. On échange pour jeter l'anathème sur l'autre, pour l'insulter, pour le vilipender, au lieu de poser les vraies questions et de trouver les réponses qu'il faut. Nous pensons qu'aujourd'hui, pour sortir de cette crise-là, impérativement, à l'interne, les Maliens doivent dialoguer. Et on constate que le dialogue est en panne entre les acteurs politiques et le gouvernement. Il faut forcément dialoguer pour trouver quand même un consensus qui va nous permettre d'échanger avec la CEDEAO. Mais la question que je me pose, mais même ce délai-là dont on parle, et l'échange entre le Mali et la CEDEAO pour trouver un délai, finalement, l'application, ça va être à quel niveau? C'est au niveau du Mali. Et pour ce faire-là, nous sommes obligés quand même de parler avec la classe politique et la société civile. Et raison pour laquelle nous, au Parena, nous avons demandé qu'il y ait au moins un dialogue intermalien, qu'on trouve des solutions endogène qui vont nous permettre d'échanger avec la CEDEAO pour qu'on lève les sanctions. Donc moi, je pense que ce n'est pas honteux de demander les dialogues. Au contraire, c'est la voie du salut. Si on veut sortir, c'est-à-dire que de la crise-là, de façon apaisée, de façon consensuelle, il est quand même extrêmement important que les Maliens, entre eux, échangent.
– D'accord, d'accord. Voilà. D'accord. Je veux faire réagir Alaï par rapport à ça. Et si tu estimes qu'il n'y a pas de dialogue.
– Moi, je pense qu'il y a du dialogue. Il y a du dialogue et le dialogue continue entre les populations maliennes, notamment les partis politiques qui ont été toujours sollicités, qui ont été toujours concertés, sauf ceux qui n'ont pas voulu participer. Je pense que lors des assises nationales, nous avons assisté à la participation des partis politiques, au dialogue, et le dialogue continue. Le gouvernement est toujours ouvert à tout le monde. Et c'est une transition. Ce n'est le souhait des personnes qu'on tombe dans cette situation. Et c'est juste un bref délai. Et tous les Maliens sont appelés au dialogue. Et moi, je pense que le dialogue continue. La raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dialoguer et trouver des solutions. Parce qu'on est tous des Maliens. Notre objectif, c'est qu'on sorte dans cette crise et qu'on remette le pays sur ses deux pieds. Donc, raison pour laquelle nous pensons qu'il est important que tout le monde prenne part à ces dialogues-là. Et les dialogues, c'est entre les Maliens. Ce problème, c'est un problème malien. C'est nous qui allons le résoudre d'abord entre nous, à l'interne, avant de penser à d'autres partenaires. Moi, je pense que si tous les Maliens se mettent d'accord et se disent que vraiment, c'est l'intérêt du Mali qui compte, il faut aller vers un consensus. Et je crois que la CEDEAO et les autres partenaires du Mali vont être d'accord avec nous.
Donc, d'accord.
Je pense que le dialogue, c'est toujours ouvert. Et on est dans le dialogue et nous continuons à dialoguer toujours pour trouver des solutions.
Vous ne craignez pas les conséquences de ce statu quo-là depuis le 9 janvier? On est sous sanctions. Jusque-là, il n'y a pas d'accord avec la CEDEAO. Ou bien vous pensez que le Mali peut faire sans la CEDEAO? Quel est votre sentiment par rapport à ça? Le fait qu'on est toujours sous sanctions, il n'y a toujours pas d'accord.
Effectivement, on est dans les sanctions et c'est vraiment dur pour le pays et c'est dur pour la population malienne. Et moi, je pense que laissons le gouvernement faire son travail. Le dialogue continue toujours. Déjà, il y a une commission qui est sur pied, qui est en train de travailler sur la négociation. Et je pense que, espérons que la prochaine rencontre entre la CEDEAO et le Mali, qu'on aura des solutions idoines. Nous, on est optimistes et nous pensons qu'il y aura une solution, Inch'Allah.
Alors, Brahima Tamega, j'espère que vous l'êtes également, ici dit comme Alaï Diko, vous êtes optimiste également, mais aujourd'hui, si la situation restait telle qu'elle est aujourd'hui, quelles peuvent être les conséquences sur le Malien lambda?
Bien sûr, c'est finalement, on se demande quel est l'objectif de cette transition. Se maintenir au pouvoir en méprisant une grande partie du peuple malien, parce que on a l'impression que les autorités de la transition ne sont pas en train de mesurer la souffrance du peuple malien. Pas seulement dû aux sanctions, mais depuis le coup d'État à maintenant, c'est bien entendu une situation compliquée. Les Maliens ont du mal à dormir. Les Maliens ont du mal à se sentir en sécurité. Alimentaire, sécurité, dans nos terroirs. Bien entendu, c'est cette question. Les conséquences, aujourd'hui, nous la subissons à tous les niveaux. À tous les niveaux, monsieur. Vous avez parlé d'inclusivité, qu'il y a un dialogue. Moi, mon souci majeur se trouve là, en fait, justement. Il n'y a pas de dialogue, monsieur. Vous avez parlé des ANR. Les ANR n'ont pas été pas du tout inclusif. Il l'a rappelé, mon aîné. Mais une grande partie de la classe politique et de la société civile n'ont pas participé au dialogue national et aux ANR. Mais il y a des indicateurs statistiquement vérifiables pour les prouver. Aujourd'hui, au sein du cadre, si on prend l'ensemble des structures qui constituent le cadre dont je fais partie. Mais vous savez, vous avez plus de 100 organisations, partis politiques, associations, acteurs de la société civile compris, qui sont tous aujourd'hui mis à l'écart. On ne les écoute pas, on ne prend pas en compte leur avis. Nous, quand on parle, on nous voit tout de suite comme des ennemis de la patrie.
Mais que pensez-vous aujourd'hui de la décision des autorités d'ouvrir le gouvernement, le CNT, suite à la révision de la charte? Maintenant, le cadre peut intégrer le gouvernement s'il le veut.
Nous, on parle. On ne voit pas tout ça comme une forme de partage de gâteaux.
C'est un partage de gâteaux.
Mais comme certains peuvent le penser, nous, on n'est pas inscrits dans cette logique-là. On veut être écouté. On veut s'impliquer parce que la situation de notre pays nous préoccupe
tellement que nous avons aussi besoin, nous avons aussi envie de jouer notre partition aux côtés des autorités de la transition. Par contre, je vais rectifier quelque chose que vous avez dit et que Diko a insisté aussi là-dessus. Vous savez, nous, on n'est pas contre la transition. On a l'impression que le cadre est contre la transition.
Est-ce que j'ai dit que vous êtes contre la transition?
Opposé à la transition, vous l'avez dit, oui. À l'entame de votre introduction, de votre intervention. Nous ne sommes pas opposés à la transition. Par contre, nous sommes déterminés à donner notre point de vue. Nous sommes déterminés à nous faire entendre. Nous sommes déterminés à jouer notre rôle de républicain et de démocrate. Personne ne peut nous enlever notre nationalité malienne. Nous sommes aussi des Maliens. Nous n'allons pas accepter que d'autres se croient plus maliens que nous, nous mettent de côté, nous traitent d'apatrides, d'ennemis du pays, d'ennemis de la nation, d'amis de la France, d'amis de la CEDEAO, comme si nous sommes en train de comploter avec le reste de la communauté internationale contre le Mali. Ça, c'est une erreur. Aujourd'hui, monsieur, comment certains peuvent insulter justement la CEDEAO sans une réelle connaissance des liens économiques et historiques qui nous lient? Comment un pays enclavé comme le nôtre, certains parmi vous, demandent à ce qu'on quitte la CEDEAO?
D'accord. Comment un on pays comme va le pas, nôtre... On ne va pas refaire l'histoire des relations entre le Mali et la CEDEAO.
Je reste dans le contexte.
On n'a plus assez de temps.
Je viens. Juste un dernier mot. Comment un pays qui ne contrôle plus les un tiers de son territoire peut vouloir se passer de l'aide de ses voisins immédiats, voisins limitrophes? Arrêtons de voir le mal partout, arrêtons de voir tout en noir, arrêtons de penser que tout le monde est contre nous.
D'accord.
Nous sommes aussi africains et c'est important quand les autres pays africains veulent nous accompagner.
Que peut-on faire aujourd'hui pour sortir de cette situation? Comment trouver le juste milieu? La CEDEAO dit 12 à 16 mois, les autorités disent 24 mois, un délai incompressible. Est-ce qu'on peut concilier ces positions?
J'insiste là-dessus. Vous savez, le Mali est un pays résilient. Est un pays de dialogue et de consensus. Pour moi, ce que j'ai dit qu'il faut rendre opérationnel les cadres de concertation des partis politiques. Qu'est-ce qui appelle aujourd'hui? Le président Assimi sait qu'il n'y a pas un consensus autour du Premier ministre. Il est de son devoir à travailler pour avoir le consensus du Premier ministre. Et comment cela doit se faire? Il faut appeler ceux qui ne partagent pas aujourd'hui la vision du gouvernement. Il faut se donner un temps de les écouter. Et quand vous les écoutez, demandez à l'ensemble de revenir dans les bateaux du Mali et qu'on puisse décider ensemble. Je suis convaincu et persuadé, si les Maliens, dans une majorité écrasante, décident aujourd'hui de la prolongation de la transition de 24 mois dans un consensus, la CEDEAO va revoir sa position. La CEDEAO va reconsidérer sa position.
Quand vous dites les Maliens, vous parlez des acteurs politiques.
Je parle des acteurs importants, des acteurs politiques, que ce soit les organisations de la société civile, les acteurs politiques. Si l'ensemble de ces acteurs aujourd'hui, que les cadres de concertation reviennent dans les bateaux de la transition et qu'ils soient d'accord avec, pour une transition de 2 ans, je pense que la CEDEAO va reconsidérer sa position. Mais tant que nous avons des problèmes internes, structurels, avec la polarisation des acteurs, il va être difficile qu'on puisse avoir un consensus par rapport au délai de la transition. Nous sommes souverains, mais il faudrait qu'on s'entende là-dessus. Parce que le problème que la CEDEAO a aujourd'hui, c'est que certains acteurs ne sont pas d'accord avec la prolongation.
Rapidement,
si du tout. Comment faire en sorte que ces gens-là puissent
être d'accord avec ça? Est-ce que cette entente-là est possible entre les acteurs politiques?
Mais on est condamné à nous entendre. Si réellement nous parlons, nous voulons le bien de notre pays.
Qu'est-ce qui vous empêche de vous entendre?
Le plus fort détermine les règles du jeu, comme l'a dit Nelson Mandela. Et aujourd'hui, c'est le président de la transition qui doit donner quand même les indications. Et je pense que ce travail-là va se faire pour aider le Mali à sortir de cette crise-là. Donc, il faut rassembler les Maliens autour de l'essentiel.
D'accord.
L'essentiel, c'est quoi? C'est d'abord de sécuriser le pays et de travailler d'arrache-pied pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ce travail-là est possible.
D'accord.
Donc, impossible n'est pas malien. Si on veut, on peut, je pense.
Ok. Rassembler les Maliens autour de l'essentiel, ce sera le dernier mot de ce débat, du grand dialogue qui parlait aujourd'hui de la crise entre le Mali et la CEDEAO. Comment trouver un compromis sur la durée de la transition? Nous avions sur ce plateau Sidi Touré du Parti pour la Renaissance nationale Parina, Alaï Ali Diko du Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusil Mali, Ibrahima Tamega du porte-parole du cadre d'échange des partis, regroupement de partis politiques. Et Brahima Mamadou Kone, enseignant et analyste politique. Cette émission a été mise en onde par Adjaratou Traoré. À la régie vidéo, il y avait Nouhoum Djiré. Merci à toutes et à tous. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. On se retrouve demain pour un autre numéro du Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dimondi.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.